9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, on parle de votre santé pendant une heure sur Beurre FM, tous les matins entre 9h et 10h. Soyez les bienvenus. Le docteur William Beribi est avec nous aujourd'hui. May the force be with you, doc.
Absolument, Philippe.
Vous êtes docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert du microbiote, on commence à le savoir. Vous êtes auteur d'un podcast qui s'appelle Merci Docteur. Et vous avez également une chaîne YouTube qui s'appelle Docteur William Beribi, qui est la première chaîne YouTube qui est consacrée aux pathologies digestives. Et vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle Médecine microbiotique, publié chez Marabout, la révolution médicale du 21e siècle. Alors c'est vous qui avez créé ce concept de médecine microbiotique, qui est à la fois une médecine naturelle, préventive et curative.
C'est ça. Elle est douce et naturelle, puisque douce, pourquoi ? Puisqu'on fait appel à l'alimentation et aux probiotiques. Les probiotiques, c'est des bactéries vivantes qu'on a déjà à 39 000 milliards dans notre côlon, avec 1000 espèces. Et donc, ça consiste à prendre ces fameuses gélules spécifiques par pathologie, intestin irritable, obésité, stress, etc. Et de traiter ainsi les différentes pathologies. Ça, c'est l'axe principal de la médecine microbiotique.
Mais tout, il y a donc toute la prévention. Donc, pour expliquer aux gens, ça veut dire qu'on se soigne avec des bactéries.
C'est ça.
C'est ça.
Des bactéries vivantes, les mêmes qu'on a, les mêmes bonnes bactéries qu'on a dans notre tube digestif, on va les prendre pour un problème donné en utilisant les bonnes souches, puisque le secret, si vous voulez, de la médecine microbiotique, c'est de ne pas prendre n'importe quel probiotique, mais de prendre le probiotique adapté avec les bonnes souches. C'est ça la clé, si vous voulez.
C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne bactérie adaptée à la bonne pathologie.
C'est ça.
D'accord. Vous élaborez des protocoles depuis 2016. Comment est-ce que vous avez fait pour savoir que telle ou telle bactérie était adaptée à telle ou telle pathologie?
Alors, tout à fait. En 2008, la métagénomique nous permet d'identifier vraiment le microbiote intestinal. Avant, on savait pas de quoi il était composé, puisque 80% des bactéries du microbiote ne sont pas cultivables. Donc, on connaissait pas tout simplement sa composition. Et en 2008, on a pu le faire grâce à l'ADN, en recueillant l'ADN, en cassant les bactéries, on reprend l'ADN et on va l'analyser. Et en 2008, je me dis, là, il se passe quelque chose de tout à fait incroyable dans la santé, et je commence à colliger toutes les publications. Et 8 ans plus tard, j'ai suffisamment de publications dans différentes pathologies, avec des chercheurs qui ont étudié telle souche, telle souche, telle souche, dans telle ou telle pathologie, donc l'obésité, le stress, l'anxiété, l'intestin irritable, etc. Et à ce moment-là, je me dis, je vais commencer à élaborer des protocoles que je vais utiliser. Et c'est ce que j'ai fait avec un grand succès. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, Médecine microbiotique.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut traiter toutes les pathologies avec cette médecine microbiotique?
Alors, pas tout. Bien évidemment, une infection, on va avoir besoin d'antibiotiques. Une tumeur, on va opérer. Il y a des pathologies qui sont accessibles par les probiotiques, notamment la sphère intestinale en premier lieu, puisque c'est le patron du corps humain. Et quand on rééquilibre le microbiote, on va agir sur l'intestin bien sûr, mais aussi sur le foie, sur le tissu graisseux, sur le cerveau. On peut agir aussi sur une autre flore qui est la flore vaginale, avec des probiotiques par voie vaginale. Et puis, à l'inverse, il y a des microbiotes, parce que il faut bien comprendre qu'il y a des microbiotes dans chaque organe. Par exemple, les urines, on pensait que c'était stérile, les urines.
Ah oui, parce qu'elles étaient passées par les reins qui avaient fait le travail justement de les, a priori, les stériliser.
Et en fait, c'est pas stérile puisqu'il y a des bactéries à l'intérieur et donc il y a un microbiote urinaire. Donc c'est des bonnes bactéries, mais c'est quand même des bactéries si vous voulez. Donc il n'y a aucun milieu stérile.
Combien est-ce qu'on a de bactéries dans l'intestin, rappelez-nous?
Dans l'intestin, 39 000 milliards.
Bon,
un poids d'un kilo, entre 1,4 kg et 2 kg.
Donc 39 000 milliards.
Milliards.
C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez d'un rééquilibrage. Mais pour rééquilibrer 39 000 milliards, qu'est-ce qu'il faut donner comme quantité de bactéries?
Alors, pour renouveler complètement le microbiote, il faudrait faire une transplantation fécale dans l'absolu. Et il y a une seule indication aujourd'hui, c'est les infections récidivantes à Clostridium difficile, qui est une bactérie particulière. Les probiotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire, si vous voulez? Ils vont rééquilibrer le microbiote. Alors, dans une gélule, il y a quand même 1 milliard de bactéries par gélule.
Dans une gélule de probiotiques qu'on prend ou qu'on achète en pharmacie.
Exactement.
Ah oui, c'est pas mal.
Donc, c'est déjà pas mal. Après, on va le prendre tous les jours. Donc, au bout de 30 jours, vous aurez 30 000 milliards. D'accord? Au bout de 60 jours, 60 000 milliards. Donc, vous voyez, ça fait quand même des quantités importantes. Donc, elles vont s'implanter, elles vont avoir un effet de rééquilibrage en faveur des bonnes bactéries, puisque dans les pathologies, lorsqu'il y a des symptômes, c'est justement le fait que les bonnes bactéries sont en nombre insuffisant par rapport aux mauvaises. Mais des fois, il faut garder le traitement. Par exemple, prenons l'exemple de l'intestin irritable. Des fois, les patients ont besoin de le prendre régulièrement. Faire une cure de 2 mois, d'arrêter, puis de reprendre. Parce que la bactérie, elle ne va pas nécessairement s'implanter. Et c'est pour ça que c'est des traitements souvent au long cours.
Pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent ce matin, les souches de bactéries ont des actions qui sont spécifiques et ne sont pas interchangeables. C'est pour ça que quand vous allez acheter un probiotique à la pharmacie, il faut savoir de quelle souche vous avez besoin.
Exactement. Alors là, c'est là, si vous voulez, la clé et le nerf de la médecine microbiotique, si je puis dire. C'est que des probiotiques, il y en a des centaines et des centaines, avec des allégations diverses et variées. C'est-à-dire le labo ou la start-up qui commercialise va vous dire « prenez-le pour l'intestin, prenez-le contre le stress, c'est formidable ». En réalité, moi je me base sur ce qui est publié, hein, parce que les patients ne sont pas des cobayes, donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Et donc, c'est quand il y a une publication de renommée sur une population de plusieurs centaines de personnes, randomisé en double aveugle, c'est-à-dire dans les règles de l'art, que là, c'est significatif. Et c'est ces souches-là que je vais mettre dans mon livre sous forme de protocole microbiotique. Quand un patient achète sur Internet parce qu'il trouve que la boîte est jolie ou qu'il va à la pharmacie, eh ben, il va pas avoir le bon probiotique et donc il va prendre des probiotiques qui par ailleurs ne sont pas remboursés, donc ça revient relativement cher, pour rien. Et les pharmacies, voilà, ont des accords avec certains groupes qui sont plus ou moins importants, etc. Donc, c'est dur de trouver le bon probiotique en pharmacie.
À quelles indications faut-il se référer quand on achète des probiotiques sur la boîte ?
Alors,
il y a quoi ? Il y a la souche,
il y a quoi ? Alors, il y a la souche. Donc, encore une fois, il faut avoir la souche et la référence de la souche, c'est-à-dire que vous avez un lactobacille, par exemple, et vous avez un numéro. Donc, c'est pas juste prendre du bifidobactérie ou du lactobacille. Il y a un numéro à chaque fois. Et donc, c'est la souche très précise avec le numéro de la souche qui compte. Quand vous avez cette information-là, et vous la trouvez dans mon livre, eh bien, vous pouvez l'acheter. Et vous pouvez l'acheter en pharmacie ou sur Internet. Parce qu'en fait, sur Internet, le problème, c'est d'acheter n'importe quoi. Mais une fois que vous connaissez la bonne souche et le nom commercial du produit, vous pouvez l'acheter où vous voulez, il n'y a plus de problème, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, ce que je conseille, alors moi, j'en prends moi-même des probiotiques, notamment pour booster l'immunité avant l'automne, etc. Et quand les patients en prennent d'une façon prolongée, par exemple, dans l'intestin irritable, ils sont améliorés d'une façon extrêmement spectaculaire. Et il y a des personnes en errance depuis des années qui en prennent et qui ont une révolution dans leur santé.
Donc là, vous avez commencé d'ailleurs par l'intestin irritable.
Bien sûr.
En gros, la souche, justement, qui aide les personnes qui souffrent d'intestin irritable, c'est lequel ?
Alors, il y a par exemple le Lactobacillus rhamnosus, il y a le Bifidobacterium, il y a le Lactobacillus plantarum V399. Tout ça, c'est des souches qui marchent. Et vous les trouvez sous cette forme-là et sous le nom commercial. Donc, c'est en général une gélule par jour pendant 60 jours. Et c'est au bout de 60 jours qu'on peut évaluer donc véritablement l'effet.
Par exemple, vous avez un protocole pour la NASH.
Oui, hein, absolument.
En quoi ça consiste donc dans ces cas-là ? Vous rééquilibrez Quel microbiote ?
Justement, on rééquilibre le microbiote intestinal. Faut bien comprendre que le microbiote intestinal, c'est le patron du corps humain. Moi, je l'appelle premier cerveau. C'est lui qui régule tout. Donc, en fait, en régulant le microbiote intestinal, on va rééquilibrer le foie, puisque les maladies du foie proviennent d'une dysbiose intestinale. Les maladies du cerveau proviennent d'une dysbiose intestinale. L'obésité provient d'une dysbiose intestinale, puisque c'est vraiment la centrale, si vous voulez, santé.
Donc, la dysbiose, doc, c'est...
Dysbiose, c'est déséquilibre du microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, c'est donc ce qu'on appelait avant la flore intestinale. C'est donc toutes ces bactéries, parasites, levures, qui sont dans notre tube digestif.
Et quand ça va bien, on parle de biose.
Exactement.
Voilà. 80% des acheteurs de probiotiques le font en automédication encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est largement une médecine auto-médiquer. Hein.
Débutante. Alors les probiotiques, c'est des ferments lactiques qui sont donc des compléments alimentaires. Malheureusement, ils sont pas remboursés, à part un seul, l'ultra-levure. Et du coup, bah, les patients, effectivement, les achètent en automédication. Les médecins sont pour l'instant pas très formés en médecine microbiotique, voire très peu, parce que c'est un concept, comme vous l'avez dit, que j'ai créé, de rééquilibrer le microbiote à l'aide des probiotiques, mais aussi des prébiotiques. Hein, ça, c'est la prévention. Donc, les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, qui vont permettre d'apporter suffisamment de fibres, donc 30 grammes par jour. Donc, en gros, ça fait 5 fruits et légumes par jour. Mmh. Et c'est ce carburant, cette essence à nos bactéries, qui vont permettre à tout le monde d'avoir un microbiote en bonne santé et donc de pouvoir lutter contre les infections et contre les agressions des différents agents pathogènes. Et puis, il y a le sport aussi, qui est un outil très intéressant dans la médecine microbiotique. Les trois axes, c'est prébiotique, probiotique, exercice physique, puisque l'exercice physique va nous permettre de fabriquer des substances qui, elles, voici un nouveau terme, les postbiotiques, qui sont fabriquées par nos bactéries intestinales lorsque l'on fait du sport. Et ces postbiotiques ont des effets sur la santé, donc anticancéreux, régulateurs de la glycémie, etc., etc.
Bon, je vais vous demander de plancher sur deux thématiques ce matin, docteur William Bérébi. On va s'intéresser aux pathologies propres à l'été et notamment aux pathologies digestives de l'été. Et puis, c'est la septième vague de Covid. Alors, on va essayer de voir comment on peut booster notre système immunitaire grâce à la médecine microbiotique. Restez avec nous jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Avec le docteur William Bérébi, et avec lui on parle bien sûr de médecine microbiotique qu'il a inventée et qu'il est en train de populariser. Et je rappelle que vous pouvez lire « Médecine microbiotique », c'est le titre du livre qu'il publie aux éditions Marabout. 60% des cellules de notre immunité sont dans l'intestin, ce qui fait du microbiote intestinal le chef d'orchestre de l'immunité. Alors, on va parler de l'immunité, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'avec la Covid-19, eh bien finalement, cette immunité était chamboulée. Quelles sont les bactéries, docteur, qui stimulent l'immunité ?
Alors, il y a le rhamnosus, Lactobacillus rhamnosus, ça c'est quelque chose de très intéressant, qui va stimuler donc l'immunité et permettre à notre immunité d'être en quelque sorte boostée. Vous avez également le Lactobacillus plantarum qui a fait une publication récente sur la Covid-19 d'ailleurs. Et donc ça c'est des boosts immunitaires qu'on peut prendre même en dehors de la Covid au moment de l'automne par exemple pour éviter les infections hivernales.
En gros, quand le virus arrive, qu'est-ce qui se passe dans nos intestins? Où est-ce qu'il va se fixer?
Voilà, alors, l'aérosol, vous savez que la contamination se fait par aérosol. Le virus, il va rentrer dans les voies aériennes, il va descendre dans les alvéoles pulmonaires et se fixer. Il va descendre aussi dans l'intestin. L'intestin, c'est le deuxième site d'élection de ce fameux virus, de cette SARS-CoV-2, et sur un récepteur qu'on appelle ACE2. Et donc, ça va induire une réaction inflammatoire et immunitaire au niveau des poumons, donc le fameux syndrome respiratoire de la SARS-CoV-2, mais également des symptômes digestifs. D'ailleurs, on retrouve du virus dans les selles des patients infectés. Et donc, si vous voulez, évidemment, si vous avez un microbiote qui est de mauvaise qualité, déséquilibré, avant d'être infecté, vous avez plus de risques de faire une forme grave, et ça a été parfaitement démontré par des multiples études.
Il y a une réponse immunitaire qui est innée et une réponse immunitaire qui est acquise. Donc finalement, après, on va dire, 2 ans et demi de Covid, comment se comporte notre système immunitaire aujourd'hui?
En fait, il se comporte comme il peut, puisque comme vous le savez, le virus, il mute sans arrêt, il y a des variants, donc à chaque fois, le virus, il va chercher à échapper. C'est ce qu'on appelle l'échappement immunitaire, c'est-à-dire il va essayer de faire en sorte de ne pas être reconnu par les anticorps qu'on a développés, soit par une infection antérieure, soit par la vaccination. Donc il va se débrouiller pour échapper à ça et avoir ces fameux spikes, vous savez, d'accroche. Et ben il va essayer d'en avoir moins pour que les anticorps puissent plus s'accrocher à lui. Donc il va y avoir cette immunité acquise qui va sans arrêt être chamboulée et devoir s'adapter avec ce combat virus humain.
Alors quels sont les actions des probiotiques sur l'immunité.
Alors, c'est très intéressant de savoir que, effectivement, quand quelqu'un fait une forme grave, par exemple, on sait qu'il va avoir une dysbiose très prolongée avec des mauvaises bactéries qui vont perdurer très longtemps et les bonnes qui vont être en carence très longtemps. Comme Fecalobacterium prosnitzii, par exemple, qui est une bactérie très importante anti-inflammatoire. Et en cas d'infection Covid grave, cette bactérie va avoir des taux extrêmement bas dans le microbiote intestinal.
Donc là, il faudrait la booster, c'est ce que ça veut dire?
Il faudrait la booster, mais elle n'existe pas pour l'instant sous forme de probiotique. Parce que tout n'existe pas en probiotique, comme vous l'avez compris. Donc, la première chose qu'on a découverte, c'était ça. Donc, dysbiose importante chez les gens qui font des formes graves. Et quand on fait une forme grave, eh bien, on garde une dysbiose très longtemps. Plus récemment, bah, les chercheurs, évidemment, ont étudié quel impact on pouvait avoir pour améliorer le microbiote. Puisque si on sait qu'il joue un rôle, eh bien, évidemment, il faut essayer d'agir. Alors, on s'est rendu compte, un, que les gens qui consomment beaucoup de prébiotiques, donc beaucoup de fibres, ont un risque d'avoir une forme grave diminuée de 86%. C'est-à-dire, si vous prenez des gens qui sont infectés, et vous avez deux groupes, un groupe qui mange pas beaucoup de légumes et l'autre qui en mange beaucoup, eh bien, 86% de moins de risque d'avoir une forme grave chez les gens qui consomment beaucoup de prébiotiques. Donc, c'est déjà tout à fait spectaculaire. On s'est aperçu une deuxième chose, que certains probiotiques qui étaient donnés pouvaient permettre de réduire, donc chez des gens qui étaient symptomatiques, de réduire l'évolution. C'est-à-dire de faire en sorte que l'infection dure moins longtemps et que les symptômes soient raccourcis, 4 jours de moins de symptômes, avec certains probiotiques, notamment Lactobacillus plantarum. Hein, il y a une association comme ça de plusieurs. Donc là, il y en avait plusieurs probiotiques dans cette étude.
Donc là, lesquels
Alors, il y en a 4, mais avec des noms, avec plein de chiffres que je pourrais pas vous donner. Lactobacillus plantarum et puis un Pediococcus. Voilà, ça c'est les deux principaux. Il y en a encore deux autres, mais c'est que avec des trucs chiffrés.
D'accord. Là, on parle de gens qui sont symptomatiques, donc qui sont Covid plus.
Covid plus, symptomatiques, qui n'ont pas de forme grave et on réduit la durée des symptômes. Et puis troisième axe, donc ça c'est le deuxième axe d'action. Troisième axe, c'est la vitamine D. Alors la vitamine D, c'est extrêmement intéressant. On s'est aperçu que les personnes qui avaient un taux de vitamine D bas avaient, accrochez-vous bien, 14 fois plus de probabilité de faire une forme grave. 14 fois plus. Donc ça fait 1400%. Donc c'est absolument énorme. Et également, une étude toute récente, française, a étudié...
Du CHU d'Angers.
Exactement. Bravo Philippe, qui a étudié le fait d'apporter des doses très importantes de vitamine D à des personnes âgées, hein, qui sont les plus à risque de formes graves et de décès, et ils se sont aperçus que ça diminuait la mortalité dans le groupe qui recevait des fortes doses de vitamine D. Alors, faut toujours, dans les études scientifiques, être prudent et être précis. C'est pas parce que ça a permis de diminuer la mortalité chez les patients de plus de 80 ans que c'est vrai dans toute la population française. C'est vrai dans la population depuis 80 ans. Et comme ça a marché sur cette population-là, maintenant on fait d'autres études.
Une étude pour les plus de personnes qui peut-être sont moins exposées au soleil, voilà, qui sortent moins.
Voilà, ou des gens plus jeunes. Est-ce que ça marche aussi chez les gens plus jeunes? Et à ce moment-là, ça extrapole et ça s'élargit à toute la population. Donc, alors, moi, le conseil que je donne...
Oui, mais est-ce qu'on sait précisément quel est le rôle de la vitamine D dans le cadre, justement, du SARS-CoV-2?
Tout à fait. La vitamine D, donc, elle booste l'immunité, justement. C'est-à-dire, elle va interagir notamment avec les cellules intestinales, qui est le premier rideau, en fait, de l'immunité. Et puis, il y a tout un système, donc, d'interaction avec les lymphocytes, donc les cellules sanguines, notamment les lymphocytes. Et la vitamine D va avoir un effet intermédiaire et boostant sur ces cellules, donc lymphocytes, macrophages, etc., qui vont nous permettre de nous défendre contre ce virus. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a une application très simple de ça, parce que là, ça peut paraître un peu fictif, mais en fait, moi, ce que je recommande, c'est à tout le monde actuellement, comme on est dans un rebond quand même de l'épidémie, de faire un dosage de vitamine D, puisque 80% de la population est déficitaire ou en insuffisance, 8 sur 10 donc, c'est énorme. Faire le dosage, il n'est pas remboursé, ça coûte une vingtaine d'euros, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes carencé, ce qui est très probable...
Alors, est-ce qu'on sait quel est le bon taux? Parce qu'on parle toujours de vitamine D, oui. Mais c'est quoi le bon dosage?
Alors, il faut être au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre. Hein, et donc on considère que c'est entre 30 et 50 qu'on est dans la bonne fourchette. Donc faut pas non plus en avoir 80, ça sert à rien, et puis ça sert à rien d'avoir trop de vitamine D, mais c'est minimum 30. Donc les patients qui ont moins de 20, par exemple dans l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était 20 le seuil, il faut avoir donc 30 pour être bien. Et on a des, si vous voulez, des schémas, il y a eu des recommandations récentes très précises, si vous êtes entre 20 et 30 ou si vous êtes en dessous de 20. Et donc, dans ce cas-là, on va recharger à forte dose le patient pour le remettre à taux normal. Et ensuite, on va le remettre à une ampoule de 50 000 unités tous les 6 mois, qui est la recommandation actuelle. On voit encore beaucoup de patients qui ont une ampoule tous les 3 mois, tous les 6 mois. Bon, ça, c'est fini. C'est une ampoule de 50 000 unités tous les 6 mois. Et chez les personnes, par exemple, en obésité, c'est une ampoule de 100 000 unités, donc le double, 12 mois de l'année.
Alors là, en gros, on arrive à la septième vague, et là, avec un nouveau variant qui s'appelle BA5,
c'est ça, hein,
qui est un variant de BA2, qui est le précédent qu'on a connu
1, 2, 3, 4, 5
et... vers le mois de mars. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez là, au moment où la vague est là, de toute façon, hein,
Donc déjà, comme je viens de vous le dire, la vitamine D, je viens d'en parler.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait, on fait son dosage.
Voilà. Donc moi je l'ai fait et voilà, mes patients je leur dis, demain vous allez faire votre dosage de vitamine D et je vous réajuste votre taux pour que vous ayez un bon taux. C'est archi simple et ça vous permet d'avoir une protection contre ce virus, c'est avéré, c'est démontré scientifiquement. Donc il y a rien de plus simple. Deuxièmement, au niveau alimentaire, ben consommer des prébiotiques, hein, manger beaucoup de légumes, des fruits, des légumineuses et céréales, c'est démontré que ça diminue le risque d'infection grave. Donc voilà, bon, des choses très simples qu'on peut faire
et ensuite,
vraiment au quotidien.
Donc si on veut prendre des probiotiques pour booster notre système immunitaire.
Voilà, alors il y en a un, alors je le dis avec des guillemets, c'est le probiologue Florvis, qui est un probiotique qui, au départ, qui existe, mais qui a été développé pour le syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, dans l'étude dont je vous ai parlé, les deux souches principales qui sont dans cette étude sont dans ce probiologue Florvis, et j'en ai pris moi-même d'ailleurs quand j'ai eu la Covid il y a quelques mois.
Donc ouais, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une cure.
Alors bon, c'est pas une recommandation, attention, hein, c'est une étude. Moi je l'ai pris parce que je suis sensibilisé évidemment et je suis de très très près tout ce sujet et je suis spécialiste en médecine microbiotique, mais voilà, mais je vais pas dire voilà, faites-le, c'est ça qu'il faut faire. Je dis voilà, il y a une étude qui a montré un bénéfice avec ça. Voilà.
Et ça booste le système, encore une fois,
on
parlait de booster votre système immunitaire qui est la barrière en fait.
C'est ça, à chaque fois, si vous voulez, tout part de l'intestin en fait, hein, toutes les maladies ou presque partent de notre intestin, et quand notre intestin, notre microbiote, notre flore, comme on l'appelait avant, est déséquilibré, eh bien, c'est le champ à toutes les pathologies possibles, notamment infectieuses.
On a beaucoup parlé du zinc en début d'épidémie, il a disparu là.
Complètement. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses, hein, vous savez.
Mais le zinc a disparu.
En fait, si vous voulez, encore une fois, moi je vais me baser sur les publications scientifiques, sur ce qui a été avéré. Et c'est quand c'est avéré par des publications que je vais l'appliquer. Le zinc, rien n'a été démontré. La vitamine C, rien n'a été démontré. L'ivermectine, rien n'a été démontré. Donc là, il y a des gens qui vont hurler. Mais voilà, donc si vous voulez, il y a plein de trucs qui circulent parce qu'aujourd'hui...
C'est pas une question de dose sur l'ivermectine?
Si, c'est une question de dose, mais c'est surtout le fait que l'effet anti-Covid, il a été constaté dans un tube à essai. Or, nous, on n'est pas un tube à essai, on est un humain, si vous voulez. Et donc, les doses qui potentiellement pourraient agir sont 10 fois supérieures à la dose habituelle chez l'adulte. Donc, ça veut dire une dose qui serait totalement toxique, voire mortelle chez l'humain. Donc, voilà, l'ivermectine n'a pas d'intérêt.
Médecine microbiotique, c'est le titre de votre livre, docteur William Berrebi, et on va s'intéresser aux pathologies de l'été. Restez avec nous jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
William Berrebi qui est avec nous, on parlait des pathologies digestives de l'été avec le docteur Berrebi. Et quand on parle de troubles du transit, il faut être précis. Et il y a une pathologie que beaucoup de voyageurs connaissent, c'est justement la tourista, la diarrhée du voyageur. J'ai regardé, on ne sait pas très bien pourquoi on appelait ça la tourista d'ailleurs.
Bah, ça vient de touriste, hein, touriste, tourista. Hein. Mm. Donc diarrhée du voyageur, c'est des synonymes. Alors, ça veut dire que vous allez avoir plus de 2 selles. La définition de la diarrhée aiguë, c'est plus de 2 selles par jour pendant 14 jours, pendant moins de 14 jours. Alors la tourista, ça survient, si vous voulez, donc c'est une pathologie extrêmement fréquente. Souvent, c'est les personnes qui sont dans les pays industrialisés, hein, donc comme nous, qui vont aller dans des pays avec une hygiène plus précaire, comme on dit, ou une condition de vie différente. Donc, ça va entraîner de la diarrhée, qui va survenir dans la majorité des cas pendant le voyage. Ça peut survenir juste après. Et plus le voyage est long, plus ce risque augmente. Et après 14 jours, par exemple, d'un voyage dans un pays exotique, par exemple, eh bien, vous avez 50% de probabilité d'avoir une tourista. Donc c'est...
Encore ? Ouais. Au bout de 14 jours, on n'est pas immunisé.
Ah ben non. Au contraire, plus vous êtes dans le pays, plus vous vous exposez à boire une eau contaminée, de manger un légume parce que vous n'avez pas fait attention cette fois-là, vous avez mangé une tomate, etc. Donc, en fait, plus vous restez dans le pays, plus ça s'allonge et plus la probabilité d'avoir une tourista augmente.
C'est une gastro, en fait, une tourista.
Alors non, c'est pas une gastro. La gastro-entérite virale, c'est du virus et c'est saisonnier. Et on l'a dans notre pays régulièrement. La tourista, c'est vraiment des agents pathogènes qu'on va trouver dans des pays, donc à conditions plus précaires, on va dire. Alors, c'est par exemple donc l'Afrique, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça, c'est les pays à risque très élevé. Et puis, vous avez des pays à risque intermédiaire, comme la Chine, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, et l'ex-URSS, enfin tous les pays de l'ex-URSS. Donc ça, c'est des pays à risque intermédiaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la gastro-entérite virale dont vous parliez, saisonnière en France, etc., dans 80% des cas, c'est une bactérie et pas un virus.
Bien. Est-ce qu'on pourrait l'éviter ?
Alors, on peut l'éviter tout à fait. Alors, il y a des règles de base. Les règles de base, c'est de jamais boire de l'eau du robinet, de jamais boire de l'eau qui n'est pas ouverte devant vous, donc elle doit être décapsulée devant vous. Vous pouvez boire, s'il n'y a pas d'eau, des boissons gazeuses, des sodas. Vous pouvez aussi, si vous êtes en règle, faire bouillir l'eau, par exemple, si vous n'avez pas le choix. Et puis, il y a des produits que vous pouvez mettre, des comprimés aussi, que vous pouvez mettre dans un litre d'eau pour désinfecter cette eau. Donc ça, c'est une première chose par rapport à l'eau. Deuxième chose par rapport à l'alimentation, eh bien évidemment, vous consommez pas les légumes, les fruits qui sont rincés à l'eau du robinet. En revanche, vous pouvez consommer une banane, par exemple. D'accord ? Les aliments, il faut qu'ils soient cuits devant vous ou qu'ils soient récemment cuits et pas réchauffés, surréchauffés, etc., qui est un autre risque. Voilà trois règles simples, si vous voulez, pour pas attraper cette tourista. Et donc, le piège classique, au-delà de ces règles assez basiques, c'est les glaçons. C'est-à-dire que vous prenez un soda, mais on vous met des glaçons dedans. Mais les glaçons, c'est de l'eau du robinet. Donc vous êtes malade. Voilà.
Est-ce qu'il y a des probiotiques à prendre avant, si on pourrait éviter ?
Oui, tout à fait. Donc, il y a l'ultra-levure, donc Saccharomyces boulardii, qui est cette fameuse levure. Et donc, il faut prendre 3 gélules par jour, 5 jours avant le départ, et après 3 gélules par jour pendant toute la durée du séjour. Et là, vous réduisez considérablement le risque de survenue de tourista pendant votre voyage.
Alors, vous déconseillez, vous, l'Imodium ?
Tout à fait. Alors, quand on va avoir une tourista, dans la majorité des cas, ça va bien se passer. Il va y avoir l'impact, évidemment, d'une diarrhée qui peut être plus ou moins sévère, mais ça va pas durer, en général, des semaines. Mais si vous prenez un ralentisseur du transit, donc du loperamide, vous allez bloquer donc l'évacuation de vos selles, mais aussi de la
bactérie. Ouais.
Donc, elle va rester plus longtemps et donc... Bah, c'est pas bon, évidemment, de garder une bactérie dans son organisme. Et donc, je déconseille, sauf cas particulier. Il est bien évident que si vous avez 10 selles par jour ou plus et que vous devez prendre votre avion pour rentrer, vous n'allez pas faire sur vous à l'aéroport. Donc, à ce moment-là, vous prenez une gélule pour le voyage. Mais sinon, globalement, d'un point de vue purement santé, c'est pas pertinent de bloquer le transit.
Alors, autre trouble du transit, la constipation. Alors, ça peut arriver aussi, finalement.
Tout à fait. Alors, je peux rajouter juste un mot sur le Naturista.
Oui.
Vous pouvez amener, il y a une ordonnance type, si vous voulez aussi, à prendre avant le voyage. Souvent, les patients me la demandent. Donc, avec de l'ultra-levure, du racécadotril, qui est un antisécrétoire. Et puis, il y a un antibiotique que vous pouvez amener, qui est l'antibiotique de référence, qui est l'azithromycine, qui est célèbre pour d'autres raisons. 4 gélules en une prise, donc 1 gramme dès le début de la diarrhée. Et ça, vous l'emmenez avec vous, et comme ça, vous n'êtes pas pris de court en voyage, et ça vous gâche pas vos vacances.
Il est célèbre pourquoi, l'azithromycine?
Bah, parce qu'il a été utilisé par un certain professeur marseillais.
Bah oui, en cas de Covid.
Et ça s'est révélé, avec des résultats qui n'ont pas été du tout confirmés, malheureusement.
Alors, pour la constipation, donc, ça peut arriver, la constipation en voyage, notamment à cause des décalages horaires.
Tout à fait. Alors la constipation, c'est un grand classique. D'abord parce que le rythme de sommeil va changer. Vous pouvez avoir un vol dans la nuit, vous ne pouvez pas dormir dans l'avion, donc vous allez votre rythme circadien, comme on dit, votre rythme biologique qui change. Premièrement. Deuxièmement, vous allez manger différemment. Vous n'allez pas préparer votre cuisine, donc souvent ça va être un fast-food, donc vous n'allez pas avoir votre apport de légumes, de fruits, etc. habituel. Troisièmement, il y a la question de l'hygrométrie. L'hygrométrie, c'est l'humidité. Et donc, ici, on a entre 40 et 70% d'hygrométrie, donc de taux d'humidité. Dans les avions, à 10 000 mètres d'altitude, il y a à peu près 20-25%. Donc, c'est très sec. Donc, ça déshydrate. Souvent aussi, dans l'avion, les personnes peuvent être tentées de boire un petit peu d'alcool, ce qui déshydrate aussi.
Le café, peut-être, mais le thé, non?
Café, ça pose pas de problème particulier. C'est l'alcool qui va déshydrater davantage. Et puis, vous êtes immobile. Faut pas oublier que l'intestin, plus vous bougez, plus vous le stimulez, il va bouger avec vous et donc ça va l'aider à se contracter. Mais quand vous êtes assis pendant X heures et quand c'est des longs courriers, évidemment très longtemps, évidemment votre côlon se contracte plus. Et puis dernier point, n'oubliez pas que l'intestin c'est le premier cerveau, c'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Quand on fait un vol en avion, en général, on est plutôt la plupart des gens sont plutôt stressés ou anxieux parce que voilà, et donc le stress et l'anxiété va agir sur notre intestin et donc avoir tendance plutôt à avoir un effet négatif.
Alors la plante miracle en cas de constipation.
Alors la plante que j'utilise, alors déjà les conseils qu'on peut donner si vous voulez avant un voyage, c'est manger beaucoup de légumes dans les jours précédents, beaucoup de prébiotiques, des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes, c'est vos alliés, n'oubliez pas, et prenez-en d'une façon très régulière. Boire beaucoup avant le vol, pendant le vol et après le vol. Ça va vous éviter de rester constipé pendant 3 jours à l'arrivée. Mmh. Et puis, la plante miracle dont vous parlez, c'est le psyllium, qui est donc une plante qui à la fois est très efficace et en même temps elle est prébiotique d'ailleurs. Et à l'inverse de plein d'autres plantes qui sont vendues en vente libre malheureusement et qui sont toxiques comme le séné ou le cascara, le psyllium n'est absolument pas toxique et vous pouvez la prendre sans aucune limitation et pendant des années.
Il n'existe qu'une variété de psyllium ?
Il y a le psyllium, celui qu'on utilise c'est le psyllium blond, qu'on va utiliser alors en vrac, vous pouvez le trouver en vrac dans les magasins bio. Moi je l'utilise en sachet évidemment, pharmaceutique, sous différents noms commerciaux.
Alors, d'autres désagréments de l'été, c'est pour ceux qui vont aller au soleil, c'est l'insolation.
L'insolation. Alors, l'insolation, c'est un problème, c'est quelque chose de sérieux, il faut bien le dire. Alors, vous avez, il y a une petite différence, il y a l'insolation et le coup de chaleur. Le coup de chaleur, ça va être une montée de la température du corps, qui peut aller jusqu'à 40 degrés, sous l'effet d'une température excessive. Alors ça peut être, je suis dans une voiture surchauffée sans clim, je suis sous un toit en zinc, ou je fais du sport dans une salle, dans un lieu clos, et du coup j'ai hyper chaud. Ça peut être le coup de chaleur. Et puis l'insolation, c'est un coup de chaleur lié au soleil. C'est la même chose, mais il y en a un, dans un cas, il n'y a pas le soleil, dans l'autre, il y a le soleil.
Traître parce qu'on ne voit pas toujours arriver.
Exactement. Alors, justement, l'alcool aussi joue un rôle parce que, plage dit verre de rosé, et l'alcool va déshydrater et va aussi faire perdre un peu la sensation, justement, des symptômes liés à l'insolation. Et à ce moment-là, vont survenir les symptômes, c'est-à-dire les maux de tête, les courbatures, la soif, la rougeur du visage. Et puis, paradoxalement, quand vous êtes en insolation, vous allez arrêter de transpirer. Ça, c'est un signe très, très évocateur. Vous transpirez, puis là, quand quelqu'un est en situation, vous regardez sa peau, ben, il transpire pas.
D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous conseillez, docteur Berrebi?
Alors là, il va falloir agir. Agir, ça veut dire que on va mettre la personne à l'ombre, si elle était au soleil. On va la rafraîchir du mieux qu'on peut. On va la réhydrater. Donc la réhydrater, on va lui donner évidemment à boire de l'eau moyennement fraîche. C'est pas besoin de lui donner de l'eau très froide. Mmh. Et puis la rafraîchir. Alors comment rafraîchir quelqu'un? Alors ventilateur, bien évidemment. La mettre dans une pièce climatisée, si c'est possible. Utiliser des glaçons, hein, donc des glaçons, poches de glaçons que vous mettez sur la nuque et entre les cuisses, hein, qui sont bah oui les
pourquoi entre les cuisses?
Les cuisses parce qu'on est près du rachis et donc il y a des capteurs si vous voulez à cet endroit-là et la cuisse avec évidemment l'occlusion c'est là où il y a une température corporelle la plus élevée donc on va rafraîchir ainsi et puis on peut aussi sinon moyen très simple que j'ai expérimenté moi-même c'est une douche froide si vous avez accès à une douche vous allez sous la douche. Vous mettez température modérée et puis progressivement, vous allez refroidir votre douche et vous allez pouvoir baisser votre température corporelle.
Je voudrais juste qu'on termine avec ceux qui vont avoir la bonne idée de se baigner dans un endroit avec des petites bêtes, hein, parce qu'on les voit pas toujours. Ouais, hein, parfois, on se baigne dans des eaux qui sont sympas, mais finalement avec des petites bêtes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, quand on est dans la mer Méditerranée, par exemple, on va pas avoir de problème particulier puisqu'il y a des critères de qualité d'eau, comme vous le savez. Par contre, il n'y a pas de critères de qualité de sable. Ça n'existe pas. Et dans le sable, évidemment, les gens s'allongent, etc. On met des objets, etc., etc. Mmh. Donc vous allez trouver dedans des parasites, des champignons, des poux, la gale, etc. Donc règle numéro un, évitez de s'allonger dans le sable.
Si vous allongez directement,
Directement dans le sable, vous prenez le risque effectivement de récupérer des poux, etc. Donc sur une serviette. Je vous donne les recommandations, hein, si vous voulez. Après, chacun fait ça.
Ah ouais, là, vous tuez un mythe.
Alors là, si vous voulez tuer un mythe encore plus, il y a des gens qui recommandent de pas marcher dans le sable pieds nus. Alors là, j'ai dit non, faut arrêter, sinon on vit plus. Non, on marche pieds nus, il n'y a pas de problème. Mais si on le peut, on s'allonge sur une serviette. Les affaires maillot de bain, le soir, pensez à les rincer, ça c'est important aussi. Et puis prendre une bonne douche, évidemment, le soir au retour, surtout si on s'allonge dans le sable sans serviette. Et on va éviter ainsi le larva migrans, qui est donc une larve de parasite qui va passer dans la peau et donner à ce moment-là rentrer carrément tout doucement sans qu'on le sente et faire un cordon sous la peau de plusieurs centimètres. Et à ce moment-là, vous allez vous en apercevoir parce que ça va vous gratter et vous allez regarder, vous allez avoir un cordon rouge sous la peau. Et ça, c'est le larva migrans cutané. Et donc, ça, c'est un classique de la plage. Et à ce moment-là, on met une crème spéciale pour apaiser ça. Et sinon, autre exemple, eh bien, dans les eaux douces, un peu stagnantes, vous avez la fameuse bilharziose, qui est ce parasite qu'on retrouve notamment dans les eaux du Nil, et qui peut donner donc des maladies du foie ou des maladies urinaires.
Docteur William Berrebi, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez l'émission sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous publiez Médecine microbiotique aux éditions Marabout. Merci d'avoir été avec nous, docteur Berrebi. Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.